tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en français, un épisode spécial Japon aujourd'hui, puisque nous sommes trois pour animer l'émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Dominique.
Salut à tous.
Et nous avons deux invités qui, pour le coup, baignent un peu dans le Japon quotidiennement. Hein. C'est un peu votre vie de tous les jours. J'accueille avec nous Quentin Doy.
Bonjour, bonjour.
Et Simon Delbar.
Bonjour.
Alors, on va bien sûr expliquer un peu qu'est-ce que vous faites, puisque tous ces événements que vous proposez se passent dans la région lilloise, hein, ce qui colle parfaitement à Radio Campus 106.6. C'est bon, j'ai fait toutes les cases. On peut y aller. Et c'est vrai que nous, dans Heureusement en France, nous sommes un peu des passionnés du Japon également.
Bah en fait, comme on parle de plein de domaines, ce qu'on appelle geek en général, que ce soit du jeu vidéo au cinéma, au jeu de rôle, tout, etc., tous ces domaines, il y a un pays qui les touche tous à un moment ou un autre, c'est le Japon. Il y a d'autres pays qui les touchent, bien sûr, mais le Japon, à un moment, finit forcément par le croiser, que ce soit au niveau même musical, etc.
Et même de base, le Japon nous a touchés à notre enfance, avec ne serait-ce que le Club Dorothée, tout simplement.
Bon, ouais.
Et donc, tout de suite, dit, on bah devient ouais, vulgaire. Suite, voilà. C'est terrible.
Ah, mais c'est la vérité.
Et à force de que ce soit dans des salons, etc., ou même simplement en passant devant des boutiques dans la rue, on voit des gens dire tiens, c'est marrant, des passionnés de Japon. Puis, contrairement à nous, ils ont décidé d'en faire leur boulot ou de partager leur passion, de rester en France. Et comme il y en a pas mal, je pense, qui sont partis, qui ont fait un premier voyage au Japon, qui sont amoureux. Il y en a qui sont restés là-bas. Mais il y en a qui sont venus, qui ont décidé de partager leur passion et on en a plein. Donc on a commencé par les deux-là. Peut-être qu'on fera d'autres émissions avec d'autres invités, c'est pas impossible.
Alors, on va rentrer directement dans le sujet. Pour moi, c'est vrai que visiter le Japon, être là-bas en tant que touriste, c'est extrêmement plaisant. Mais je trouve qu'il est plus difficile de vivre là-bas, étant part d'une autre culture ou étant un peu étranger, hein, comme on pourrait dire, gaijin, c'est ça. Je trouve que c'est un peu plus difficile de s'intégrer plutôt que d'aller visiter, puisque lorsqu'on est touriste là-bas, on est extrêmement bien accueilli. On a la possibilité de découvrir plein de choses dont on va discuter dans l'émission. Mais est-ce que vous auriez pu vivre au Japon?
Je te laisse répondre en premier, Simon.
Je ne pense pas, non. Non, parce que je pense que c'est bah en fait c'est ce qui ça fait la magie du Japon. C'est pour ça qu'on a ces activités autour du Japon, parce que c'est une autre culture complète. Mais justement, y vivre, je pense que c'est une trop grande barrière. De toute façon, je connais beaucoup de personnes françaises ou non qui ont vécu au Japon quelques années. Ils en sont tous revenus avec plein de souvenirs. C'était merveilleux. Et beaucoup ont des conjointes japonaises, mais y vivre, c'est trop grande barrière.
Ils ont juste été chercher le conjoint, en fait.
Ouais, c'est ça, voilà. C'était moins cher.
Et puis, c'est vrai que la France a quand même une belle vision au Japon, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais là-bas, c'est un peu le...
Ce sont deux pays qui sont très liés. Alors nous, on parle de la région lilloise, enfin la région lilloise aussi, et la région nord en particulier, et pas seulement depuis l'installation de Toyota à Valenciennes, qui, je pense qu'il y a, même, il y a un avant et un après Toyota, je pense qu'on pourrait essayer de le dire. Mais effectivement, la France et le Japon ont un lien particulier. Est-ce que c'est parce que c'est deux pays qui sont très à l'opposé, mais pas seulement géographiquement, mais aussi même culturellement, qu'on s'attire l'un l'autre? C'est peut-être pour ça. On va peut-être en parler pendant l'émission.
Alors, je vous propose au moins de présenter, hein, puisque vous avez tous les deux une activité extrêmement liée au Japon. On peut commencer par toi, Quentin. Toi, tu es localisé à Roubaix.
C'est ça.
Et tu tiens ce qu'on appelle un combini. Un petit combini. Alors, en japonais, ça serait un peu une épicerie.
Mais
c'est un peu l'épicerie avec un...
Pourquoi? Parce qu'il est à Roubaix.
C'est l'épicerie un peu plus, apparemment, tu ne fais pas que de l'épicerie, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le concept du petit combini?
Alors, déjà, sur le mot combini, il faut savoir que du coup, c'est un mot contracté qui vient du coup de l'anglais, le convenience store. Donc, l'enseigne la plus connue, c'est le 7-Eleven. Et après, effectivement, ils ont plein d'autres enseignes, Family Mart, Suncus, enfin voilà, il y en a Lawson, il y en a énormément. Mais voilà, c'est un peu l'épicerie qui va être ouverte toute la nuit, mais qui va être plus qu'une épicerie, c'est-à-dire presque un lieu de vie. Au Japon, par exemple, les salarymen, qui sont connus pour pas trop rentrer chez eux, généralement, ils vont aller s'acheter la petite chemise pour le lendemain matin. Le petit déo, tout ce qui va bien en fait pour retourner travailler sans justement qu'on ait encore les traces de la veille, un peu de la soirée. Donc il y a ce côté un peu lieu de vie. Pareil, les ramen, on a le petit... En fait, on a le petit appareil qui permet d'avoir l'eau chaude et d'avoir ces instantanés tout de suite et de pouvoir les manger devant la boutique. Il y a vraiment tout ce qui permet, on va dire, de survivre un petit peu autour des combini. Et c'est vraiment un lieu de rencontre, même parfois.
Il manque que les lits pour protéger.
C'est ça. Bah, généralement, c'est pas très loin. Il y a les mangas cafés ou ce genre de choses-là, ou les capsules hôtels qui permettent justement de faire toute la partie nocturne. Mais après, effectivement, donc, ce que j'ai voulu faire avec le petit combini justement en France, c'était vraiment ramener ce côté un petit peu lieu de vie. C'est pour ça aussi qu'on a fait pas mal d'ateliers depuis le début de la boutique. Et tout ça lié à chaque fois autour de la gastronomie, de la partie culturelle, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il y a une partie très large de la culture japonaise. Certains connaissent les mangas, d'autres c'est plus les arts martiaux, certains le thé, ça peut être toute la partie kimono, la calligraphie. Enfin voilà, je peux continuer comme ça longtemps. Mais
boutique de sushi qui pousse comme des champignons dans toutes les villes.
Ouais, ça effectivement c'est quelque chose qui est là depuis 10 ans, même un peu plus, et il y en a vraiment beaucoup. Après, au-delà de ça, c'est vrai que même sur la gastronomie, mais on commence à voir arriver aussi à Lille des petits nouveaux qui proposent par exemple le ramen, qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Mais voilà, avec le petit combini, je voulais aussi amener autre chose et pousser un peu plus l'aventure Japon.
Faire partager la culture.
Sur l'île, voilà.
Et on détaillera un peu tout ce qu'on peut trouver dans le combini. Simon, pour ta part, toi, tu fais partager une expérience qui est un peu quelque chose de culte au Japon, quelque chose d'assez traditionnel. C'est...
La cérémonie du thé.
C'est ça, la cérémonie du thé japonaise qui s'appelle au Japon Chanoyu. Donc le nom au Japon est beaucoup plus simple, c'est eau chaude pour le thé. Voilà. Donc les Japonais n'aiment pas ce mot cérémonie du thé parce que pour eux c'est trop formel, trop de lourdeur. Pour eux c'est quelque chose de simple qui apporte un moment de paix, on va dire, dans la journée, dans le quotidien. Mais voilà, encore une fois, c'est de la simplicité japonaise. Je veux dire, c'est très codifié, énormément de règles.
Pourtant, c'est bizarre, justement, comme de l'extérieur, on a l'impression d'avoir des personnes qui sont extrêmement portées sur la tradition. Et donc, d'avoir là le contraire, d'avoir quelque chose de simple par rapport à la tradition qui peut être très complexe, c'est bizarre à entendre.
Mais après, c'est une idée d'esprit. En fait, c'est un peu comme le bouddhisme zen japonais, c'est les contraires. C'est-à-dire, l'esprit du thé, c'est... Le thé, en japonais, c'est cha. Donc là, c'est le wabi-cha, l'esprit du thé simple. Mais les Japonais, et en fait ça c'est bon, voilà, c'est la liberté et par les règles. Donc le thé c'est énormément de règles, tourner le bol, les saluts, etc. Très compliqué pour nous Européens. Mais quand on vit ce moment, on s'implique dedans, vraiment c'est un moment de volupté, c'est voilà, on est hors du temps.
Et c'est vrai, c'est une des choses, si vous avez la chance de voyager au Japon, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, nous, dans le quotidien, qui semblent un peu aberrants là-bas. il faut un peu se réadapter lorsqu'on essaye de vivre ou de s'adapter au Japon. Alors, vous n'allez pas échapper à la question de Heureusement en France. Je vais vous demander, quel est un peu votre parcours? Comment est-ce que vous en êtes venu à être aussi immergé dans la culture japonaise? Je vous laisse...
Allez, j'attaque, voilà. Moi, il faut savoir qu'au début, j'étais à l'université de Lille 3. Donc, je pense que les gens qui sont sur Lille et qui aiment le Japon doivent connaître un petit peu. Donc, j'avais entamé la licence de japonais. Du coup, pas très loin d'ici. Et du coup, suite à ça, j'ai eu la chance de pouvoir partir 2 mois travailler dans un restaurant au Japon. Et ça a fait naître un petit peu le côté justement tout autour de la gastronomie et de la restauration. Je suis revenu en France, j'ai fait une école hôtelière et après je suis reparti au Japon mais en working holiday visa.
On était en quelle année à peu près là?
Ça remonte à du coup, alors quand j'ai repris du coup la restauration,
oui, à peu près, pour savoir,
c'était il y a 8 ans, okay. Grosso modo.
Alors toi qui as pu travailler au Japon, est-ce que c'est stéréotype de... En fait, c'est celui qui parle plus tôt que tout le monde regarde, donc il faut vraiment essayer de partir le plus tard possible. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Surtout dans la restauration, peut-être?
Alors je vais donner... Ouais, c'est vrai qu'il faut bien préciser. Moi, c'est vraiment dans la restauration. Ça, c'est vraiment différent selon le type de métier. Moi, effectivement, le chef, le représentant aussi, le directeur de salle, c'était souvent les derniers à partir. Quitte à faire des heures un peu pour effectivement juste pour l'image un petit peu. Non mais c'est vrai qu'à ce côté en France on fait 35 heures, chacun part grosso modo à l'heure. Si on part sur le côté général, c'est vrai qu'au Japon, il y a ce côté un peu faire des heures pour montrer un petit peu qu'on est impliqué dans le travail, pour montrer qu'on veut que la société avance. En fait, il y a vachement cette image-là qui va être poussée en avant et qui est censée se répercuter aussi sur les salariés qui vont suivre l'exemple et forcément donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu ça l'objectif. Donc effectivement, les heures supplémentaires et l'implication dans l'entreprise sont quasiment obligatoires et poussées par les supérieurs.
Donc après cette expérience où tu as travaillé dans la restauration, ça t'a pas donné envie de rester apparemment ?
Alors moi en fait, j'ai failli m'installer au Japon. Je dirais que le Japon, ça a été une super expérience. C'est pas quelque chose que j'ai entre guillemets rayé, le fait de partir là-bas habiter. Le souci, c'est lié plus au travail. Donc moi, je reste sur la restauration, hein, sur effectivement mon activité professionnelle. Dans la restauration, on travaille beaucoup. Très peu de jours de repos. J'ai travaillé aussi pour des patrons japonais, donc forcément, c'est un management à la japonaise, donc un peu à la dure. On va dire que le Japon, pour moi, il y a beaucoup de bonnes choses. Le plus gros point noir, en tout cas dans la restauration, c'est le travail au final. C'est pour ça que je me vois très bien retourner au Japon, mais en ayant par exemple un petit combini, et pas en travaillant justement dans la restauration. Je pense que ça dépend vraiment du secteur d'activité et de tout ce qui va autour de ça.
Un petit combini et 4-5 employés pour que je n'ai rien à faire.
C'est pas ça, mais donc du coup, tu as Roubaix, tu as un petit combini où tu vends des produits japonais. Est-ce que si tu vas au Japon, que tu ouvres un petit combini, est-ce que tu vas vendre des produits de la région, par exemple ?
Alors effectivement, justement, le projet qui a failli se faire, c'était un restaurant français, justement, au Japon. C'est vrai que ça m'a toujours plu, en fait, de un peu faire découvrir aux gens aussi une culture, la gastronomie aussi, parce que la France, comme le Japon, on a un patrimoine gastronomique qui est énorme. Moi, c'est vrai que je parle souvent de saké, c'est pas pour rien que j'en parle, c'est parce que voilà, la gastronomie est très riche, donc forcément, il y a les alcools qui vont venir se marier avec cette gastronomie, et c'est pareil en France. Donc c'est vrai que quand je travaillais comme sommelier au Japon, avec clients, c'était toujours des découvertes, et dans les deux sens aussi, hein, parce que les Japonais certains Japonais sont vraiment très friands et très connaisseurs de vin français.
C'est vrai que c'est un des liens entre la France et le Japon. C'est étonnant, en plus, c'est vraiment de culture, parce que la France, c'est les plats, plus tu rajoutes de choses, plus il y a de détails, plus il y a de choses sur l'assiette, plus tu rajoutes de couches et de sauces et de petites épices, etc. Alors qu'au Japon, c'est presque l'inverse, on voit, c'est la culture, c'est... Quand il n'y a plus rien, quand c'est... Enfin, le sashimi, c'est rien. Enfin, c'est du poisson. Plus c'est minimaliste, plus c'est parfait. C'est presque deux cultures complètement opposées.
Et moi, ça me fait sourire parce que moi, je suis passé par l'île 3 également. Je suis un peu passé dans les classes de japonais, mais pas jusqu'à en faire une licence. Et moi, mon rêve, c'était de créer une boulangerie. Mmh. Alors peut-être que j'avais trop regardé des mangas tels que Yakitate Japan. Mais c'est vrai que le pain également, là-bas, a plus ou moins une sonorité française, hein. c'est pas très répandu là-bas, hein. mine de rien.
Ça se développe de plus en plus, hein, sur la partie boulangerie. Après, effectivement, les représentants français, on va dire, sur de la boulangerie au Japon, il y en a très peu. Dans le quartier où je travaillais, il y avait un pôle. Mais il y en avait un, c'était...
On parle de boulangerie.
On parle de boulangerie, là.
Ouais, mais ça, justement, moi, il y a quelque chose qui m'a tiqué, c'est que c'est là-bas que j'ai appris que Paul avait été créé à Lille. Parce qu'effectivement, il est écrit de Lille à Tokyo, et c'est vrai que ça m'avait fait un petit pincement au cœur quand même quand j'étais à Tokyo de voir ça, et ça m'a rappelé ma...
Et je me permets un commentaire, j'ai travaillé pour Paul, et donc oui, nous parlons de boulangerie, donc ne parlons plus de Paul.
Vendu.
Autre détail aussi, c'est vrai que les chefs, il y a beaucoup d'échanges entre les chefs, il y a beaucoup de japonais qui viennent étudier chez les chefs français, et de vrai. Français, de grands chefs. Je vois régulièrement, c'est vrai que si on regarde sur internet des tutoriels, des grands chefs français, Thierry Marx, etc., dès que tu les vois cuisiner, ils cuisinent à la baguette maintenant. Enfin, avec des baguettes japonaises, ils sont allés quelques années au Japon, ils sont devenus fous, ils sont imprégnés de la culture japonaise, mais même quand ils cuisinent maintenant dans le restaurant en France, ils ont des bonnes casseroles, etc., en cuivre bien français, etc., mais au lieu d'utiliser des fourchettes, ils utilisent des baguettes pour préparer les aliments. Enfin, c'est assez amusant comme ils sont imprégnés de tout
ça. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands chefs français qui ont un attrait pour le Japon, et ça se ressent parce qu'au final, de toute façon, ils ont souvent, tous les chefs étoilés quasiment maintenant, ils ont leur succursale, entre guillemets, au Japon. Il y en a même certains qui sont allés pousser, par exemple, le saké. Le saké en France, il faut savoir qu'actuellement, il est poussé surtout par les grands chefs étoilés, parce que c'est eux qui représentent un petit peu justement les mets, on va dire, très travaillés japonais. Donc, c'est eux qui vont être des bons ambassadeurs. Et ils font partie, justement, des personnes qui poussent énormément le marché du saké actuellement en France.
Ouais, j'ai découvert très récemment que, quand on parlait de saké, moi, j'y connais absolument rien. Pour moi, il y avait 2-3 types de saké, c'est tout. Mais alors qu'il y en a des... Enfin, il y a des variétés infinies. Et selon les plats, ça change complètement ta façon d'apprécier le plat en fonction du saké. Enfin,
c'est exactement ça.
Alors, j'ai encore une case à cocher sur ma liste. Aïe. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
On en parle mais, beaucoup.
Mais justement, avant de créer le petit combini, tu avais créé le Mon Saké.
C'est ça. En fait, à la base, comme moi, j'étais sommelier au Japon et que j'ai fait une formation aussi en rapport avec justement le saké, c'était vraiment l'objectif. En fait, c'était de pousser le saké. Donc là, dans le petit combini, je continue quand même à avoir cette expertise sur le saké et à... dès que possible, en discuter avec les clients, proposer des ateliers autour de ça. Parce que c'est vrai que c'est ma passion première, on va dire.
Est-ce qu'il y a encore un amalgame avec le saké, alors j'ai envie de dire chinois, qu'on peut avoir dans les restaurants, qui est extrêmement fort et qui est considéré comme un digestif, que la plupart des gens en France connaissent, comparé au saké japonais, qui est plus proche du vin, ici, que d'un alcool fort et digestif. Est-ce qu'il y a encore...
Beaucoup. Ouais. Malheureusement, beaucoup. En fait, c'est vrai que l'année passée, en début d'année, je faisais des salons de vin, du coup. Donc forcément, j'étais confronté à des gens qui aimaient l'alcool, qui s'y intéressaient. Donc normalement, je pensais avoir un retour un peu plus averti et aguerri sur le saké. Mais en fait, non, la plupart des personnes, quand même... Mais après, c'est pas, entre guillemets, c'est pas faute de pas s'y intéresser. C'est plus que ça s'est très mal vendu au début. Parce qu'il y a eu cette mauvaise pub de « voilà, on vous sert quelque chose de gratuit à la fin du repas, c'est un saké japonais, c'est cul sec avec une femme nue au fond du verre ». Voilà, il y a eu tout ce marketing.
C'est comme ça que Rénal s'est mis à l'alcool.
J'ai une carte de visite sur tous les restaurants japonais, hein, tu peux pas savoir.
C'est vrai que même quand on va dans un restaurant japonais réputé, on te propose 2-3 sakés, mais on m'a jamais proposé de m'expliquer la différence entre les sakés, quoi. À la limite, je veux boire chaud ou froid, mais c'est tout. Et ça ne m'encourage pas. J'apprécie, quel que soit, mais peut-être que j'apprécierais 10 fois plus si j'avais le bon saké.
S'il y avait l'histoire, s'il y avait aussi la compréhension, s'il y avait la classification aussi. Ça, c'est un peu la première chose.
J'ai appris plus de choses, à la limite, en regardant des séries animées qui parlent de saké, etc. Mais c'est vrai qu'en lisant des mangas qui parlent de saké par moment...
Ça a plus aidé, ouais. Non, mais je comprends exactement. Et c'est vrai qu'en France, actuellement, moi, j'ai le même problème aussi. Hein, quand je veux justement... travailler sur le saké, donc oui, je vais lire des livres, je vais regarder effectivement des confrères parfois faire des conférences, mais au niveau restaurant, c'est vrai que j'ai du mal à trouver des lieux où je peux goûter, parce que c'est toujours ça l'objectif aussi, c'est de goûter le plus grand nombre de sakés possible hein, pour travailler un peu son palais, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Sur Paris, on trouve pas mal de choses vraiment intéressantes ces dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de boutiques qui se sont ouvertes autour du saké, des boutiques spécialisées, il y en a une sur Bruxelles, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est compliqué de trouver des lieux vraiment axés sur le saké encore. C'est en progression, mais c'est à tâtons pour l'instant.
C'est avec modération.
Toujours.
Merci, parce qu'apparemment, on devrait en cocher plusieurs, des cases comme ça. Hein. Alors, on n'a toujours pas fini, on ne sait toujours pas comment tu as ouvert ton combini. Mais je vous propose de faire on va faire du teaser dans Heureusement France. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir patienter après cette pause musicale. Alors, Simon. On avait proposé à chacun de venir avec une musique et tu es venu avec tellement de musique, on s'est dit ben on va te laisser quartier libre. Et dans cette liste, on va commencer par un peu de rock metal histoire de ne pas s'endormir tout de suite. C'est Yula Teikoku. Alors, une petite histoire derrière le morceau, puisque je vois que ça a quand même énormément de vues.
C'est un des gros groupes, on va dire, un peu underground pour les Japonais. Parce qu'encore une fois, bon, le métal, le rock, tout ça, c'est des choses un peu violentes hein, pour eux. Et donc, très délirant tout ça à la japonaise. Quoi.
Alors, c'est du underground à 3 millions de vues. Hein.
C'est ça. Après, comment dire, c'est violent pour eux, mais pas pour nous.
Okay. Allez, je vous propose d'écouter ça et on se retrouve... Forcément, juste après, je vérifie avec la technique quand même, c'est bon. Musique.
Tu nous redis le nom de ce groupe, s'il te plaît.
Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est vraiment obligé? C'était Yula Yula Teikoku.
Non, mais wow. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre des groupes japonais comme ça, parce qu'on a tellement tendance...
C'est un peu le Strokes japonais. Hein,
voilà, mais on a tellement tendance à voir les groupes un peu mis en avant au Hellfest et compagnie, comme les Baby Metal et autres, qui donnent un côté kawaii aux groupes metal japonais, qui ne sont pas forcément représentatifs de l'underground, justement, que tu parlais tout à l'heure. Et faut chercher un peu plus. Je pense que je vais me rapprocher de toi pour avoir des bons groupes de musique à écouter.
Il y a des choses à découvrir. Hein.
Ouais. Je rajoute à la liste des invités, il faut qu'on trouve un groupe de rock japonais sur l'île.
Ok, challenge accepted. mais c'est vrai qu'il y a quand même des groupes japonais qui ont réussi à plus ou moins se faire connaître, notamment par des génériques d'animés. Hein. Il y a Asian Kung Fu Generation, The Pillows et plein d'autres. Il y a aussi les fans de J-pop. Parce qu'il n'y a pas que la K-pop qui a percé dans le milieu. Et on s'écoutera d'autres choses, puisque je vois que la liste est longue. Et elle risque de partir un peu plus traditionnelle à un moment. Alors, Quentin, je te laisse poursuivre cette magnifique aventure. Alors. Comment est-ce qu'on en arrive à ouvrir un Combini en France et... quelles sont les difficultés? Est-ce que ça fonctionne? Et surtout à Roubaix, est-ce que ça plaît? Est-ce que ça...
Alors du coup, donc effectivement, il y avait eu mon saké avant avec la partie alcool. Après, ma femme du coup a décidé aussi de donner un coup de main. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à développer la partie un peu épicerie. Donc d'abord un peu l'épicerie moderne, hein, tout ce qui est un peu snack, friandises. Le genre de choses qu'on peut retrouver un peu sur YouTube, des fois en dégustation, ce genre de choses-là.
Parce que ça, il fallait commander sur Internet pour avoir ce genre de choses. Quoi.
Effectivement. Mais effectivement, ouais, c'était sur Internet, en direct du Japon. Et du coup, il fallait attendre 3 semaines. Et puis là, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, l'avoir en direct, pouvoir découvrir, voir les produits. C'est vrai que ce n'est pas la même chose encore que de voir ça sur un site Internet. Donc c'est vrai que ça a pas mal plu.
T'allais dire les toucher, mais en ce moment, c'est un peu plus difficile.
C'est ça.
En se lavant bien les mains juste avant.
Voilà. Et après, effectivement, on a travaillé quelque chose qui nous plaisait pas mal. C'est tout ce qui est vraiment épicerie plus traditionnelle. Donc j'englobe beaucoup de choses dedans. Hein. Le thé, il y a la partie vaisselle. Il y a aussi tout ce qui est pour cuisiner japonais, tout simplement. Donc voilà, toute cette partie-là qu'on a voulu aussi pousser. Et donc après, le local sur Roubaix s'est fait via un processus en fait qui s'appelle les boutiques à l'essai. Donc en fait, c'est quelque chose de national, hein, mais Roubaix s'est mis justement dans ce processus et a proposé un bail d'un an sur différentes boutiques. Et du coup, ça permettait, on va dire, de tester un petit peu et c'était moins engageant qu'un bail classique, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est du 3, 6, 9 ans. Donc forcément, on part sur du long terme. Et c'est vrai que pour moi, c'était la première fois hein, que je démarrais, ma femme aussi, une boutique physique. Ça nous a permis d'être un peu plus rassurés et de se dire, voilà, on va voir un peu les retours et selon ce qu'on aura en retour...
C'est gagnant aussi pour les communes qui proposent ça, parce qu'elles ont plein de locaux, des boutiques qui ferment. Et c'est triste de promener dans certaines rues, et tu vois des boutiques qui sont fermées depuis 2 ans, 3 ans. Exactement.
C'est ça, parce qu'effectivement, c'est un peu un cercle vertueux. Le fait de ramener d'autres commerces, ça aide les autres commerces qui sont déjà présents et qui parfois ont du mal. Et c'est vrai que c'est souvent dans des centres-villes.
Tu passes dans la rue, tu vois bientôt ici un nouveau commerce. On ne dit pas forcément ce que c'est, mais tu dis, je repasserai voir, etc. Puis donc, les autres,
Le Combini se trouve vraiment dans la rue qui va de la gare de Roubaix jusqu'à la Grand Place.
C'est ça.
Donc quasiment l'avenue, une des avenues principales.
C'est un petit peu à côté. Oui, c'est pas loin du musée de la piscine.
C'est juste à côté, ouais, effectivement, du musée de la piscine.
Et du coup, ça fait combien de temps que tu as le petit Combini?
On arrive bientôt à un an. Là, justement, en septembre, on arrive au un an. Et c'est pour ça que là, justement, c'était la semaine passée, j'ai mis une petite story, parce que j'aime bien discuter un petit peu aussi avec les gens qui nous suivent sur Instagram, en posant des questions du type... Est-ce que vous avez aimé cette année avec nous? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on améliore? De nouveaux produits? Et sur la localisation aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment poussé un petit peu, parce qu'en fait, on a beaucoup de retours de clientèle qui nous parlent forcément de Lille. Mmh. Beaucoup de gens nous disent, vous êtes à Roubaix, c'est très bien, mais on vous attend à Lille. Donc on est en pleine réflexion là-dessus, justement, de savoir où sera la suite du Combini.
Là, c'est plus difficile de s'implanter à Lille, hein, puisqu'il y a aussi énormément de boutiques qui ferment, parce que les loyers sont
très très élevés, les droits d'entrée, ce genre de choses-là, les droits au bail, effectivement.
Alors, si vous voulez découvrir le petit Combini, c'est simple, vous tapez petit Combini, rajoutez
un K, oui.
et un N. K-O-N-B-I-N-I. Rajoutez Roubaix si vous voulez être vraiment sûr. On fera un peu un parcours des différents produits qu'on peut y trouver. Et je propose à Simon, parce que toi aussi tu vas y avoir droit, quelle est ton expérience? Comment est-ce que tu en es arrivé à être un fan? Alors cette fois-ci, c'est pas du Japon, c'est même plus précis que ça. Tu es vraiment dans la cérémonie.
Il est plus que fan, il est maître.
Ah,
un maître fan.
Et donc, pour ma part, parcours, on va dire, du français classique, c'est les mangas, le judo. Vraiment le parcours classique. Et en fait, ça s'est peaufiné, tout ça, c'est en arrivant à Lille. J'ai commencé à pratiquer la méditation zen. Parce qu'à Lille, pour les personnes intéressées, il y a un dojo zen. Donc un dojo où on pratique le bouddhisme zen japonais, on peut découvrir. Et donc c'est déjà un côté vachement traditionnel, intéressant à expérimenter. Et après, j'ai eu une rencontre. En fait, j'ai rencontré mon maître de cérémonie du thé, avec qui j'ai étudié, qui m'a formé. Donc je le voyais toutes les semaines, donc... Et il t'apprend tout. En fait, dans la cérémonie du thé, c'est comme si on renaît. Il nous apprend à marcher, à porter les objets, à purifier les objets, tout le cérémonial.
Ce qui est étonnant, c'est que, tu le disais hors antenne, c'est que toi, tu n'es pas allé au Japon. Tu as appris en France, c'est avec un maître japonais, j'imagine.
Non, parce qu'en fait, il y a 50 ans, en fait, le zen, le thé, c'est la même chose, depuis toujours, hein, l'histoire liée. En fait, il y a 50 ans, il y a les maîtres zen et les maîtres de thé sont arrivés en Europe. Et donc, il y a une dame japonaise, elle est arrivée il y a 50 ans, elle a apporté ça. Elle a eu une génération de disciples qui ont tous 60 ans, la plupart qui sont professeurs maintenant.
C'est un petit peu le chemin parallèle du judo aussi, c'est ce qui s'est passé.
Voilà, et du coup, moi, je suis la nouvelle génération. Et ainsi de suite, et il y a la transmission. Et donc, cette dame, elle a appris avec le maître au Japon, qui a appris ainsi de suite. Et le linéage, actuellement, date du 16e siècle. Donc, de maître à élève, ainsi de suite. Comme les Sith dans Star Wars. Comme vous aimez bien les trucs un peu geeks et tout ça.
J'essaie de motiver les gens. Vous voulez devenir Jedi, il faut commencer par le
temps. C'est comme ça que ça se
passe. On a eu un pic d'audience d'un coup, on ne sait pas pourquoi.
Et donc, ça fait combien de temps que tu t'es lancé?
Du coup, là, ça doit être à 4 ans et demi d'études. Et depuis maintenant un an, en fait, j'accueille chez moi, dans ma pièce à thé à la maison, des personnes pour leur faire découvrir. Et je donne des cours également depuis septembre. J'ai déjà 2 élèves. Et je vais continuer la tradition, donc former des gens, partager. Hein.
Et donc, ça s'appelle le Dojo Vagabond. Alors, vous pouvez aller chercher sur Facebook ou il y a le dojovagabond.fr, Instagram, Facebook. Et vous voyez des images et effectivement, on voit la pièce. Ouais. On est en plein milieu de Lille, pas loin de la gare.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense que pendant une session, on est au Japon, quoi, on est ailleurs.
De toute façon, c'est toujours génial les échanges à chaque fois, à chaque cérémonie. De toute façon, même pour moi, c'est un plaisir. Et les personnes, ils restent un bon moment chez moi parce qu'on discute bien également. Et à chaque fois, ils ressortent vraiment. Pour exemple, il y a une dame qui a pleuré, vraiment. À la fin de la cérémonie, elle se met à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mal fait un truc. Et en fait, non, elle m'a dit, ça fait des mois, je ne m'étais pas senti détendu. En fait, elle m'a dit, j'ai soufflé.
C'est pas remboursé par la sécurité.
Voilà, ouais, en fait, t'es meilleur qu'un psy, en fait. Faudrait que tu donnes tes prix par rapport à ça.
Justement, qui sont les gens qui viennent, qui viennent te voir, qui réservent? Parce qu'on peut réserver sur ton site.
Des passionnés du Japon. Mais après, beaucoup de personnes aussi. De toute façon, ce que toutes les personnes me disent, c'est que tu rends la chose accessible. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup de gens, personnes, ils vont se donner un genre avec les choses un peu traditionnelles. Mmh. Et ils veulent jouer le côté mystérieux et tout. Mais non, c'est le thé, la cérémonie. Enfin, le Japon, c'est quelque chose de brut, accessible. Il faut en parler, il faut expliquer. Et donc, c'est des personnes, parfois, ils ont la culture juste du judo, par exemple. Donc, ils ont effleuré le Japon, on va dire. Et là, je leur explique vraiment les choses, la manière de parler, de saluer, etc. Donc, vraiment une immersion totale. De toute façon, il faut rendre les choses accessibles. C'est comme un peu Quentin. Le plaisir de son magasin aussi, c'est qu'il explique. On parlait des sakés, mais sans lui, on n'aurait pas toutes ces connaissances. De toute façon, on se dit, on est en 2020, et c'est seulement maintenant qu'il y a encore tout à faire. Il y a tout à découvrir encore.
C'est ça, je trouve étonnant. On a deux invités. Enfin, c'est presque par hasard que vous connaissez. Mais vous êtes presque vraiment complémentaires parce qu'on imagine bien au Japon, quelqu'un qui sort du métro, il est habillé en kimono et il peut passer au petit combini et ensuite faire la cérémonie. Enfin, tout est mélange. C'est ce que le Japon, c'est ce qui me fascine aussi dans le Japon, c'est qu'on a ce mélange de tradition vraiment ancestrale et d'hypermodernisme. Quoi. Mmh. C'est ça, c'est quelqu'un qui est en kimono et qui sort le dernier téléphone portable de sa poche pour jouer et chercher des Pokémon peut-être.
Mais en même temps, c'est ça, quoi. C'est la culture du Japon. C'est un pays qui s'est renfermé sur lui-même pendant tellement d'années, qui s'est ouvert à la modernité très récemment, ce qui fait qu'il y a encore un mélange maintenant de tradition qui date de très longtemps et de modernité qui est accessible à tous de maintenant, alors que nous, Européens, on a évolué tout doucement, sans être péjoratif avec le terme évoluer, mais on a évolué avec les traditions qui se sont mêlées avec la modernité, alors que le Japon, lui, est resté très tradition. Et d'un coup, il a eu la modernité en ouvrant ses frontières aux étrangers.
Il y a des points sur lesquels c'est une espèce de laboratoire. Ils vont beaucoup plus vite que nous dans certaines technologies, etc. Puis on peut le voir dans la culture. Enfin, je me souviens, il y a quelques années, on voyait ces caricatures. Mais les jeunes dans la rue, ils étaient habillés façon rockabilly, etc. Ils écoutaient de la musique française des années 60. Et tu sais, attends, je comprends pas. Enfin, vraiment, il y a une espèce de décalage très étonnant. Quoi.
Mais quand le Japon, il a ouvert les frontières, ils ont été obligés d'ouvrir les frontières. Ils étaient encore avec les chevaux, etc. Ah, donc, voilà. Et 10 ans après... Je crois que c'est ça, 10 ans après, ils ont battu l'armée russe. Donc ils ont passé au fusil, au bateau, la vapeur, tout, en 10 ans.
Ils ont tout assimilé très rapidement. Ouais.
Mais c'est un pays, de toute façon, voilà, comme la cérémonie du thé, la calligraphie, l'art floral, tout a fait le voyage Chine-Japon. C'est des personnes, en fait, ils prennent les choses et les améliorent. Ils identifient les problèmes.
Je peux leur ramener, ma belle-mère.
Ça dépend s'il y a beaucoup de boulot.
Il y a beaucoup de boulot.
C'est bien, tu m'as complètement perdu. Alors le dojo vagabond, c'est pas que pour devenir un maître de la cérémonie du thé, ça permet aussi de découvrir et de s'initier un peu à ce. Alors même si on n'est pas fan du Japon, on peut apprécier.
Sûr. Ouais, bien sûr. Mais après, il y a beaucoup de personnes. Des fois, il y a des cadeaux d'anniversaire. Des gens, ils offrent une cérémonie chez moi en cadeau. Donc ils arrivent. J'ouvre en kimono, puis ils font bonjour, on ne sait pas pourquoi on est là.
Une surprise.
Donc après, ils voient la pièce à thé. Bon, la plupart, ils comprennent vite ce qu'ils vont faire là. Et non, et à chaque fois, c'est une découverte. Et puis, on trouve toujours des liens. Ils vont nous rattacher à quelque chose qu'on connaît. Hein. Donc non, à chaque fois, on n'est pas forcément fan du Japon pour apprécier.
Et puis, il y a un peu cette culture, comme tu le disais en entrée, un peu zen, qui fait que les gens se relaxent, se libèrent un peu, mine de rien, de leur tracas quotidien.
Ce qu'on appelle un lâcher prise, qui est vraiment, vraiment bien.
Et pour une petite information pratique, combien de temps peut durer? Combien de personnes tu peux accueillir? Combien ça coûte?
Donc pour le côté traditionnel, ça va de 1, 2 à 3 personnes pour les rendez-vous. 3 maximum, parce qu'en fait, c'est le nombre au Japon. Voilà. Et à l'inverse, des cérémonies qu'on peut faire de touristes sur place au Japon, c'est pas les touristes, les cérémonies à 10, 20, 30 personnes comme ils font. C'est vraiment 3 personnes, la vraie cérémonie traditionnelle que je propose. Donc pour 3 personnes, c'est 50 euros. Et il faut compter entre 1 heure et demie. Sachant que ça dépasse souvent largement parce qu'on échange beaucoup. Et donc c'est le temps qu'il faut compter pour ça.
Alors qu'est-ce qu'on va boire comme thé du coup? Est-ce qu'on peut avoir des petits spoilers?
Donc le thé, la cérémonie du thé au Japon, c'est le matcha. Donc le thé vert broyé en poudre. Donc en fait simplement c'est un thé qui a été broyé à la meule à pierre. Donc un peu comme de la farine, une poudre très fine. Et en fait on le fouette dans l'eau, c'est battu avec un fouet en bambou. Donc c'est une boisson qui mousse. C'est une petite boisson et en fait c'est beaucoup plus riche qu'un thé traditionnel, enfin qu'un thé infusé on va dire, et beaucoup plus puissant en théine en fait. Comme on boit la plante directement et pas son infusion, on a beaucoup plus de vertus.
J'allais proposer justement de dire, moi si je passe au petit combini chercher mon thé habituel, d'ailleurs que je suis passé la semaine dernière, je peux pas venir avec pour justement faire la cérémonie du thé. Il suffit de faire une pierre deux coups, tu vois.
Bah, j'ai le thé à la maison donc.
Ça va.
Alors, on parle du petit combini. C'est vrai que tu proposes du thé, puisque la dernière fois qu'on y était avec Reynald, tu as sorti avec quelques sachets.
À chaque fois que j'y passe, je prends toujours mon sachet de thé. Je me fais avoir à chaque fois.
Mais il n'y a pas que ça, puisque tu as un peu étendu les produits de l'épicerie, surtout pour ce qui pourrait un peu plaire aux personnes qui sont amateurs du Japon. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver alors?
Super Nintendo d'occasion. Je demande, hein.
Une Famicom.
Un Mario Bros Famicom.
La partie figurine, souvent, on nous demande un petit peu. C'est vrai qu'on en avait quelques-unes, et c'est vrai qu'il y a quand même toujours cet attrait, effectivement, manga.
Il y a d'autres coins à Roubaix, on peut se procurer ça.
Ouais, ouais.
Ouais. Okay. Faut me donner les adresses, alors. On n'est pas encore. Hein. Mais effectivement, en gros, sur les produits qu'on propose, nous, c'est vrai qu'on va quand même avoir une partie un petit peu otaku, entre guillemets, parce que y a pas mal de produits d'épicerie plutôt modernes qui vont être estampillés, par exemple, Dragon Ball Z, ça peut être Pokémon. Enfin, là, par exemple, on a des petits bonbons qui sont Demon Slayer. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, mais c'est le nouveau manga qui perce bien, enfin, le nouvel animé qui perce bien. Mais voilà, on a aussi ces produits-là qui restent quand même dans la culture un peu pop culture. Mais après, on a donc effectivement tous les ingrédients pour cuisiner une bonne partie des plats japonais. On essaie d'avoir même justement le petit ingrédient qu'on a beaucoup de mal à se procurer, type natto, des umeboshi. Enfin, c'est des petits aliments au final qui, pour ceux qui sont allés au Japon, ça va être vraiment soit nostalgique, soit ça va permettre aussi d'avoir l'impression d'y être encore un petit peu. Surtout que là, on a tous été un peu privés du voyage au Japon cette année et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va y retourner.
C'est aussi pour ça qu'on fait l'émission, hein, comme je disais.
Effectivement, je pense qu'on a tous bobo au cœur là en ce moment. c'est compliqué. Non, mais c'est vrai que, pour faire une petite parenthèse là-dessus, j'ai eu énormément de clients. C'est là où je me rends compte aussi de l'avancée du tourisme au Japon. Quand je suis parti la première fois, donc c'était il y a 10 ans, quand j'étais à Shibuya, en plein cœur de Tokyo, il y avait des étrangers, certes, mais pas comme il y a 2-3 ans. Et je vois que ça a beaucoup évolué sur le prix des billets d'avion, sur tout ce qui est aussi l'anglais, sur les différentes machines pour retirer l'argent, ce genre de choses-là. Je voyais même des soirées étrangers qui ont pop-up un peu partout.
Alors qu'à la base, c'était plus des soirées sans étrangers. ça a un peu évolué.
Il faut dire aussi qu'à l'époque, le japonais, que ce soit aussi les autres pays asiatiques, ils ne parlent rarement anglais. Donc si toi t'es
c'est ça, et en
embêté,
France c'est pareil, hein,
oui, c'est vrai qu'on est pas
oui, mais t'as les grandes villes là-dessus. Non, mais t'as les grandes villes touristiques, par exemple Paris, Lille et compagnie, où t'as un minimum de savoir parler anglais. Et c'est vrai que sur le coup, sur le Japon, où tu vas dans les grands circuits touristiques, c'est rare, mais il se développe de plus en plus et ça amène de plus en plus de touristes. Donc
et quand tu partais au Japon il y a 10 ans ou voire même plus, c'était difficile d'apprécier la nourriture et de découvrir des choses parce que tout est marqué en japonais. Donc si tu ne parles pas japonais, tu es incapable de traduire les menus. Ce qui fait que tu vas faire l'inverse en France. Moi, en France, si je vois des photos d'un plat, je ne vais pas le prendre. Je me dis, si tu prends des photos, c'est qu'il y a un problème.
Ça fait cheap.
Alors que quand tu vas au Japon, si tu vois une photo, tu dis, je veux manger ça.
C'est très, très pratique.
Parce que le reste, tu es incapable de traduire. Et je pense qu'ils ont dû faire un effort également sur la traduction de leurs plats.
Puis, mine de rien aussi, maintenant, on a presque tous un smartphone dans la poche qui est capable de traduire, pas encore en temps réel, mais ça va venir.
Effectivement.
C'est ça. Tu as justement des traductions. Bah après, est-ce que tu as un réseau disponible au Japon, ouais. Ne serait-ce que Google Lens qui fait des traductions à la volée. Ouais. Tu mets l'image d'un texte. J'ai essayé justement chez moi sur un texte japonais. Il me l'a traduit. Après, est-ce que c'est une traduction de la Google, ce qui veut dire que tu dois enlever un mot sur deux qui est pas...
Vérifier la véracité, mais ouais.
Voilà, je peux pas vérifier parce que j'avais pas la traduction du texte à côté. Mais tu as une aide à porter, une aide complémentaire.
Et une connexion, par exemple, maintenant, dans tous les combini, on a la connexion Internet. En sachant que des combini, il y en a tous les coins de rue. Donc c'est vrai que, en tant que Français au Japon, moi, quand j'étais parti la première fois, forcément, j'avais une petite appréhension de comment ça allait se passer. Je vois maintenant comment ça se passe pour ceux qui partent. Effectivement, c'est quand même beaucoup plus facile. Tout est fait pour que l'expérience soit plus simple. Et pourtant, après, il ne faut pas avoir peur de perdre l'authentisme. Mais c'est vrai que forcément, si vous partez que à Tokyo, vous allez découvrir qu'une partie du Japon. On ne va pas se mentir, Tokyo, c'est vraiment une ville à part du Japon.
Comme New York et Sydney aux États-Unis.
C'est ça.
Et ce n'est pas forcément celle que tu as envie de visiter pour te dépayser. Alors, tu seras forcément dépaysé. Mais il vaut mieux commencer à pousser vers Kyoto, Nara, aller voir les anciennes capitales. C'est extrêmement intéressant. Et peut-être le mieux, c'est de partir carrément dans la campagne, au pied du mont Fuji, pourquoi pas.
Effectivement. Et la campagne japonaise, c'est vrai que c'est une autre expérience. Ça, j'avais fait pendant un moment, j'avais fait dans les Alpes japonaises. Et... En fait, c'est une autre vie. On se rend bien compte que justement, les Japonais à la campagne, en sachant qu'ils sont très peu. Hein. Je crois qu'il n'y a que c'était 30% de la population qui est non citadine. Enfin, c'est vraiment comparé en France, c'est vraiment pas beaucoup. Et au final, on se rend compte que les gens vivent quand même différemment parce qu'il n'y a pas ce côté, par exemple, au Japon, j'ai jamais été invité chez quelqu'un pour faire une soirée. Je prends un petit exemple comme ça. Enfin, à Tokyo, ça n'est jamais arrivé. Par contre, à Kyosato, donc là où j'étais, dans la campagne, on m'a déjà invité dans une maison. Dans la cave, ils avaient justement tout ce qu'il fallait pour leur groupe de rock. Et commencer à faire un bœuf. Enfin, voilà, c'est une expérience qu'on peut vivre qu'à la campagne et pas en ville. J'en parlais avec un client avant-hier. Faire un barbecue, c'est interdit, même si on a un espace extérieur à Tokyo. Parce que justement, on risque de déranger le voisinage, parce qu'il y a tout ce côté-là. Donc en fait, Tokyo, les grandes villes, c'est vrai que c'est notre vie, et c'est parfois on voit ce côté stressant du Japon, ce côté un peu exigu. Il faut bien faire la démarcation entre justement la ville et la campagne. Les personnes aussi vont se comporter aussi différemment avec vous.
Mais justement, par rapport à la campagne, parce que nous, quand on regarde sur tout ce qui est vidéos qu'on peut retrouver, que ce soit YouTube ou d'autres vidéos sur d'autres plateformes, on voit une campagne vieillissante, on voit des villes et villages qui sont vidés petit à petit parce que les jeunes partent sur les grandes villes et font des vidéos du côté urbex de villes, villages, voire villas abandonnées et visitent à droite à gauche. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est toute la campagne du Japon qui est vidée, qui est exsangue de sa jeunesse, ou est-ce qu'on peut quand même visiter et ne pas rester concentré sur une ville, une grosse ville comme Kyoto ou autre, quoi?
Alors, après, c'est pareil. Hein. La campagne, la ville où j'étais, par exemple, il y avait carrément possibilité de faire de l'urbex. Je suis pas allé très loin dans la chose, mais on a visité un pachinko abandonné. Donc, ouais. Le pachinko, pour ceux que ça parle, c'est avec les billes, c'est la sorte de casino un peu japonais, c'est grosso modo.
C'est ça, quand la femme ne sait pas où son mari est, il rentre et il y a des billes qui tombent aussi à la porte.
Et voilà, non,
mais... Tu étais au pachinko.
Exactement, et ça c'est quelque chose, il y a beaucoup de Japonais qui sont férus de ça. Et c'est vrai qu'on est allé le visiter, c'était impressionnant de voir comment on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Il y a encore les bols de ramen avec les baguettes, enfin, on avait vu ça, c'est vrai qu'on était un peu choqués de voir ça. Et par exemple, dans cette ville-là, en fait, c'était une ville qui était très touristique avant parce que c'était à 2 heures de Tokyo. Et comme il fait très chaud à certaines périodes de l'année à Tokyo, les gens y allaient justement pour se faire plaisir. Mais ça datait d'il y a 30 ans. Et en fait, il y a une grosse partie de la campagne qui était avant presque touristique et qui vivait justement ce tourisme, qui maintenant en vit moins bien. Et effectivement, ça se complique. Et effectivement, les jeunes, il n'y en a plus tant que ça en campagne.
Alors, de là à laisser ton bol de ramen avec les baguettes avant la ferme, enfin, parce que ça va fermer, bon, peut-être. Alors, depuis tout à l'heure, il y a de la musique qui passe derrière. Et c'est encore une musique que tu nous as proposée, Simon. C'est Dan no Ura.
C'est ça, de Ueda Junko.
Alors, est-ce que la musique est importante dans la cérémonie du thé?
Non, il n'y a pas de musique dans la cérémonie du thé. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, quand vous m'avez envoyé un message, vous avez dit « il faut des musiques », j'ai dit « mince, non ». Mais en fait, non, la seule musique dans la cérémonie du thé, c'est le bruit du kama. En fait, le kama, c'est le pot en fonte qui est posé sur le feu où l'eau va chauffer. Et en fait, ce pot va produire un bruit, un petit sifflement. Et en fait, on qualifie la qualité d'un kama selon le bruit. Et on appelle ce bruit Matsumakaze, donc le bruit du vent dans les pins. Et donc, il n'y aura que ce son tout le long qui va nous accompagner. Puis les frottements de tatami, sur le tatami, les bruits de l'eau. Vraiment que ça, la simplicité.
C'est un peu comme les vidéos où tu entends des petits bruits.
ASMR, tout ça.
Il faut planter des pins chez soi dès ce soir si on veut faire une cérémonie d'été dans 30-40 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Après, sinon, je peux faire un enregistrement.
Ah, c'est plus simple.
J'avais préparé des vidéos de bruit, mais c'est peut-être pas le bon moment. Dominique.
Alors, j'avais dit qu'on ferait pas de news, mais une très rapide. Je parlais de traduction. Il y a une start-up japonaise qui a inventé un masque pour le Covid.
Oui.
Et ce masque est connecté et il peut traduire en temps réel jusqu'à 8 langues.
Ouais. Et je crois que de mémoire, en ayant lu la news, c'est un sur-masque. Donc si tu dois le mettre au-dessus du masque que tu mets. Contre le Covid. Et donc, ça évite d'avoir à y placer des germes, vu que tu remplaces que ton masque papier avant de le remettre par-dessus. Donc, pourquoi pas?
On lance les news.
Un petit peu de musique ou pas, non?
Alors, est-ce qu'il y a une autre musique que tu avais envie de nous proposer? Je regarde la liste.
La dernière.
La dernière, c'est pas mal.
Suzuki T
juste en dessous. Non, t'es en lien, non.
Parce que Suzuki T, ça serait comme le Mr. T japonais.
Akio Yamasaki.
Vous vouliez pas le garder en musique de fin, hein.
On a mieux, ouais.
On a mieux.
On s'écoute Akio Yamasaki avec Help Me, traduit de Tsuna Watari. C'était Akio Yamasaki. Et je pense qu'on aurait pu refaire une émission juste avec les off de l'émission, parce que ça parle beaucoup. On refera une émission, écoutez, vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Dimanche, 18h-19h sur Heureusement en France. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez un peu revoir un peu toutes les actualités qu'on a mentionnées dans l'émission, n'hésitez pas à aller sur le Facebook, l'Instagram d'Heureusement en France. Et je vous rappelle, nous sommes avec Quentin Deuil, avec le petit Combini à Roubaix, Simon Delbar, maître de Chanouillou. Attention, hein, ben, respect. C'est, ouais. Et pour vous initier à la cérémonie du thé à Lille, si jamais vous voulez faire découvrir voilà, un peu le Japon à quelqu'un ou lui faire partager un esprit zen. Alors Dom, tu me disais qu'on peut faire ça en enterrement de vie de garçon, mais vaut mieux le faire au début.
Ouais, bah c'est ça. Bah, j'ai déjà eu, hein, mais c'était le début du week-end. C'était,
ouais. Voilà. Ouais, heureusement, oui.
Ouais. C'est ça, c'est mieux.
Ou alors à la fin, t'as prévu un groupe de 15, ils sont plus que 12. Tu poses pas de questions. C'est bon, que tu les acceptes.
Le mari est tellement relaxé qu'à la fin, il dit bon, pourquoi je me marie au fait.
Je pars au Japon. C'est dangereux.
Est-ce que vous avez des actualités en cours? C'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas évident parce que vous participiez régulièrement à des salons, des festivals. Il y a pas mal de festivals en France, enfin maintenant un peu moins, mais sûr avec le Covid, autour de la culture japonaise, mais pas que. Parce que dès qu'il y a une expo manga, etc., il y a toujours des stands. Il y a beaucoup de choses. Il y a pas que du manga ou du jeu vidéo. Il y a aussi la culture japonaise qui est très présente. Et est-ce qu'il y a des choses prévues à venir?
Alors sur tout ce qui est activité, là par exemple, nous on mettait en place des ateliers en boutique, ça forcément c'est un peu plus compliqué avec la promiscuité qu'il peut y avoir. Tout ce qui est salon, moi c'est vrai que j'en fais beaucoup, je sais que t'en fais un petit peu aussi. Tout avait été décalé effectivement en septembre. J'avoue, on est encore sur la problématique. Est-ce que ça va avoir lieu ou pas? Pour l'instant, entre guillemets, personne ne nous met de stop et tout le monde nous dit oui, il n'y a pas de souci, on va le faire.
Ouais, envoyez les devis.
Voilà. c'est vrai que c'est vraiment... Pour l'instant, c'est en pointillé, quoi. Parce que ça me paraît très compliqué. Là, par exemple, moi, je suis censé faire les Geek Day à Lille. Ça réunit 30 000 personnes sur un week-end. J'ai du mal à croire que ce soit possible avec les conditions actuelles. Et là, on parle de mi-septembre. Donc... Ouais.
Moi, le 4 septembre, Foire internationale de Rouen,
ouais.
J'y crois pas trop.
C'est pareil. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a un peu d'incertitude de voir si jamais ça a lieu, dans quelles conditions. Ça paraît un petit peu problématique quand même sur ce genre d'événements qui réunissent au final trop de monde sur une seule journée ou deux journées. Quoi. C'est un petit peu compliqué.
Après, eux, je pense qu'ils ne savent pas non plus s'ils vont faire une continuité sur l'événement ou pas. Donc, ils se doivent peut-être d'organiser les gens.
De petits mots
de voir combien d'argent ils vont récolter, puisque je pense que louer un salon, un stand à Geek Days, c'est quand même...
Et lancer de la communication aussi, c'est ça qui est compliqué aussi. Pour des gros salons comme les Geek Days, parce que c'est vrai que j'en fais aussi des petits, la différence, c'est que des gros salons vont avoir des gros budgets com. Et si vous démarrez un budget com... et que l'événement n'a pas lieu, c'est vraiment très compliqué. Et
puis t'as les assurances qui rentrent en jeu aussi. Hein.
C'est pour ça que la situation est compliquée, encore plus sur les gros salons que sur les petits, pour ce côté un peu certitude. Ça
paraît au début juillet, vous avez participé au Shiba Matsuri, qui était un festival en ligne, sur Discord. J'avais visité vite fait des stands, et c'est vraiment sur Discord, il y a des stands virtuels où on pouvait participer à la cérémonie sur Internet, etc. On pouvait apprendre le japonais, il y avait des cours pour apprendre à dessiner des mangas, etc. Enfin, je l'ai découvert un peu par hasard très très vite, on a même peu le temps de l'annoncer dans l'émission, mais il y a eu beaucoup de monde qui est passé. Enfin, ça a du succès.
Sur Discord, on a eu 2000 personnes sur le week-end. Après, sur Insta et sur Facebook, on peut pas vraiment savoir on peut pas chiffrer. Mais en soi, il faut savoir que voilà, Discord, c'était un peu l'ossature. Donc ça permettait d'aller voir un petit peu ce que chacun proposait, de discuter. Il y avait cet aspect un peu communauté, comme sur les salons, justement, où des fois, il y a des gens qui viennent dans les salons pour discuter avec d'autres personnes qui ont la même passion. Il y avait un peu ce côté-là, discuter aussi avec chaque intervenant. Et après, par contre, on relançait sur Instagram, sur Facebook, pour que chacun puisse faire son live dans les conditions qu'il aime. Et c'est vrai que, du coup, Simon avait fait
la cérémonie du thé, une
intervention.
Une en live, avec réponses aux questions, tout ça, c'était vraiment
et qui avait bien, bien, bien fonctionné. Il y avait eu pas mal de monde et des gens.
Une deuxième édition bientôt, alors peut-être.
On y réfléchit. J'avoue, on est en pleine réflexion là-dessus. On réfléchissait à la fin octobre, mais pour l'instant, c'est pas encore.
On tiendra au courant les auditeurs.
C'est en cours.
Avant de se quitter, on va rappeler simplement vos coordonnées, c'est les réseaux sociaux forcément. Donc, petit Combini tout collé, avec un K et un N sur Facebook, sur Instagram, parce que vous postez tous les deux régulièrement des photos. Ouais.
C'est ça, l'objectif, c'est qu'en gros, les gens retrouvent régulièrement nos produits Et comme ça, ils n'ont plus qu'à nous envoyer un petit message. Et comme ça, après, on le met de côté.
Je sais que le midi, de temps en temps, on pouvait négocier un petit plat à réchauffer. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Justement, nous, c'est un peu comme les salons. On attend de voir comment ça va se passer en septembre. Parce que nous, on dépendait beaucoup de l'activité, justement, des salariés, on va dire, qui étaient dans le quartier. Donc là, c'est un peu en attente de savoir comment va se passer la rentrée. Est-ce qu'il y aura beaucoup de télétravail? Pas beaucoup. Enfin, voilà, c'est en pointillé. Pour l'instant, je ne peux pas apporter de réponse précise.
Et pour Simon, c'est ledonjonvagabond.com.
Le donjon.
C'est médiéval fantastique qui ressort.
Et sur Facebook, tout simplement, Dojo Vagabond, tout collé.
Et sur Instagram, il y a beaucoup de photos. Exactement. De la pièce à
mais
tout ça.
Je suis abonné, ça n'arrête pas.
Alors, nous, on a choisi une musique également pour terminer l'émission.
Notre musique fétiche depuis certains podcasts déjà.
Voilà, on a découvert ça il y a longtemps dans Another Podcast.
Un album qui date des années 90, déjà par justement des Japonais fans de musique française des années 60.
Comment lier la gastronomie française et japonaise, rien que tel qu'un camembert et sushi? Et on rajoute un aliment en plus, Dom?
Là, c'est une reprise d'une chanson de Néo Ferrer, Les Cornichons.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
À tous.
Au revoir.
Campus